Dans le chapitre 5 de Jean, Jésus a guéri un paralytique qui est allé le dénoncer auprès des autorités religieuses. Cette faune, telle une meute assoiffée de sang, va chercher querelle au Seigneur à cause de cette guérison qu'il fit le jour du repos. Il est difficile de trouver des qualités aux pharisiens, ces religieux. Ils se caractérisent par leur mauvaise foi, leur bigoterie et leur parti pris. Dans un autre évangile, Jésus les a traités d'hypocrites et les a maudits. Je continue le texte. Les chefs des Juifs se mirent donc à accuser Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Verset 16. Dans l'ensemble des évangiles, Jésus a guéri plusieurs personnes le jour du sabbat. Il y a ce paralytique, mais aussi un aveugle, un homme ayant une main sèche, une femme infirme depuis 18 ans et un homme au corps couvert d'œdèmes. Mis à part ces guérisons, une controverse supplémentaire eut lieu du fait qu'un jour de repos, les disciples arrachaient des épis dans un champ pour les manger. La philosophie du Seigneur par rapport au sabbat était très différente de celle de ses adversaires. Dans tous les échanges verbaux qu'ils eurent avec Jésus, les religieux furent de plus en plus humiliés devant les foules qui accordaient leur faveur au Christ, même si ce n'était que pour un temps. Leur haine fut à l'origine de la croix. Je continue. Jésus leur répondit, « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent, et moi aussi je suis à l'œuvre. » Verset 17. Jésus attire l'attention sur l'action providentielle et continue de Dieu qui contrôle l'univers et engendre la vie. Ce n'est donc pas une faute pour son Fils d'accomplir des œuvres de miséricorde le jour du sabbat. En disant « Mon Père » au lieu de dire « Votre » ou « Notre Père », le Seigneur fait une autre entorse au judaïsme traditionnel. Par cette façon de s'adresser à Dieu, il affirmait sa divinité, ce que ses adversaires ont très bien compris, car ils devinrent fous furieux. Je continue. Cette remarque fut pour eux une raison de plus pour chercher à le faire mourir, car, non content de violer la loi sur le sabbat, il appelait encore Dieu son propre père et se faisait ainsi l'égal de Dieu. Verset 18. En comparant son œuvre à celle de Dieu et en l'appelant son propre Père, Jésus s'est bel et bien fait l'égal du Tout-Puissant. Déjà la controverse du sabbat avait mis le feu aux poudres, mais sa déclaration d'égalité avec Dieu était le comble. Il ressort du texte que Jésus était soit un blasphémateur, soit le Messie. Or, ses œuvres, qui étaient un accomplissement des prophéties faites à son sujet dans l'Ancien Testament, prouvaient de façon irréfutable qu'il était authentique. Cependant, les religieux ont délibérément choisi de ne pas croire parce que cela aurait bouleversé leur statut social en éliminant leurs privilèges. C'est la raison pour laquelle ils bavaient de haine. La transgression du sabbat et le blasphème seront les principaux chefs d'accusation contre Jésus lors de son procès. Je continue. Jésus répondit à ces reproches en leur disant, « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. » Verset 19. Le Seigneur va maintenant largement enfoncer le clou. Il va faire trois autres déclarations le concernant. Tout d'abord, il explique qu'il n'est pas indépendant et qu'il n'agit pas à l'encontre de la volonté du Père. Il ne fait pas cavalier seul. Plusieurs fois dans cet évangile, il dit agir à l'initiative du Père, en accord avec sa volonté, que son jugement est conforme à la pensée du Père et que son enseignement vient de lui. Il répond ainsi à ceux qui lui poseraient la question De quel droit agis-tu ainsi ? En deux mots, le Fils imite le Père et tous deux œuvrent toujours ensemble. Je continue. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui donnera même le pouvoir d'accomplir des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent et vous en serez stupéfaits. Verset 20. Cette dépendance du Fils à l'égard du Père fonctionne à l'intérieur de la Trinité. Le cadre divin d'un partenariat d'amour et d'une délégation d'autorité totale. Je continue. En effet, comme le Père relève les morts et leur rend la vie, ainsi le Fils lui aussi donne la vie à qui il veut. Verset 21. Le pouvoir de ressusciter les morts appartient à Dieu seul. La deuxième affirmation de Jésus est qu'il donne la vie à qui il veut, qu'elle soit spirituelle avec le pardon des péchés ou physique, comme dans le cas de Lazare que nous verrons plus loin. Cette prérogative, qui est de donner la vie, sous-entend aussi que Jésus guérit qui bon lui semble, comme le paralytique par exemple. Le Seigneur lui-même ressuscita des morts parce qu'il est Dieu. Le don de guérison que possédèrent pendant un temps les apôtres Paul et Pierre était accompagné du pouvoir de ramener les morts à la vie. Je continue. De plus, ce n'est pas le Père qui prononce le jugement sur les hommes. Il a remis tout jugement au Fils. Verset 22. La troisième affirmation de Jésus est que son pouvoir de donner la vie est jumelé à celui qu'il possède de juger l'humanité. Le Père a en effet placé cette autorité entre ses mains. Il l'exercera en particulier à la fin des temps. Un jour, en effet, tous les hommes de tous les temps comparaîtront devant lui et cela m'inclut. Ce jugement n'est pas le même pour tous. Le Nouveau Testament enseigne que la fidélité des chrétiens sera évaluée devant le tribunal de Christ. Voilà ce que dit l'apôtre Paul dans une de ses lettres. « Car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal du Christ et chacun recevra ce qui lui revient selon les actes bon ou mauvais qu'il aura accompli par son corps. » Fin de citation. Par contre, ceux qui n'ont pas fait confiance au Christ seront condamnés lors du jugement dernier. Là aussi, je cite le passage. « Je vis les morts, les grands et les petits, comparaissant devant le trône. Des livres furent ouverts. On ouvrit aussi un autre livre, le livre de vie. Les morts furent condamnés, chacun. » D'après ses actes, suivant ce qui était inscrit dans ses livres, on jeta dans l'étang de feu tous ceux dont le nom n'était pas inscrit dans le livre de vie. Fin de citation. Jésus est venu sur terre une première fois pour sauver les perdus. La seconde fois, ce sera en tant que juge suprême du ciel et de la terre. Je continue le texte. « Afin que tous les hommes honorent le Fils au même titre que le Père. Ne pas honorer le Fils, c'est ne pas honorer le Père qu'il a envoyé. » Verset 23. L'unité entre Jésus et le Père est absolument parfaite, ce qui implique que celui qui honore le Père honore le Fils et réciproquement. Ne pas accepter le Fils, c'est rejeter le Père. Jésus se met sans conteste au même niveau que Dieu le Père. Je continue. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Verset 24. Je rappelle les trois affirmations précédentes que Jésus a données. D'abord, tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. En second lieu, il donne la vie à qui il veut. Et enfin, tout jugement a été remis entre ses mains. Sur cette base, celui qui croit que le Fils procède du Père et qui lui fait confiance, reçoit dans le temps présent la vie éternelle et échappe ainsi au châtiment. C'est par sa parole, qui a une autorité équivalente à celle de Dieu le Père, que Jésus donne la vie. Le croyant a déjà reçu le verdict d'acquittement. Son sort éternel a été décidé une fois pour toutes lorsqu'il s'est confié en Jésus-Christ. Ce verset met l'accent sur la dimension présente du salut. La vie éternelle est une réalité actuelle pour le chrétien. D'ailleurs, Jean va le confirmer dans sa première lettre lorsqu'il écrit, et je cite, « Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. » Fin de citation. Je continue le texte. « Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et tous ceux qui l'auront entendu vivront. » Verset 25. Jésus poursuit son enseignement avec une autre affirmation. Son pouvoir de donner la vie va jusqu'à faire sortir une personne de la mort spirituelle dans laquelle nous sommes tous enfermés. C'est la nouvelle naissance. Mais il peut aussi ressusciter une dépouille du fond d'un sépulcre, ce qu'il fera d'ailleurs avec Lazare. Devant sa tombe, il dira, et je le cite, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Fin de citation. Je continue le texte. En effet, comme le Père possède la vie en lui-même, il a accordé au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et parce qu'il est le Fils de l'homme, il lui a donné autorité pour exercer le jugement. Versets 26 à 27. Le discours de Jésus revient sur les deux prérogatives centrales qui sont l'apanage de la divinité. D'une part, il possède la vie en lui-même, ainsi que le pouvoir de la donner, et d'autre part, c'est lui qui est le juge suprême du ciel et de la terre. Je continue. Ne vous en étonnez pas, l'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe entendront la voix du Fils de l'homme. Alors ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. Versets 28 à 29. Jésus dit à ses interlocuteurs de ne pas être surpris qu'il leur ait dit que ceux qui croient en lui passent dès maintenant de la mort à la vie. Dans le futur, il y aura à son commandement plusieurs résurrections universelles corporelles. Faire le bien consiste à venir à la lumière, tandis que faire le mal, c'est préférer les ténèbres. La résurrection pour la vie aura lieu en deux étapes. La première étant ce que le Nouveau Testament appelle l'enlèvement de l'Église. Voilà comment l'apôtre Paul l'explique. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis au Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Fin de citation. La deuxième étape de la résurrection pour la vie aura lieu à la fin de ce qui s'appelle la grande tribulation, cette période apocalyptique décrite dans le dernier livre du Nouveau Testament. À ce moment-là, Jésus-Christ reviendra dans toute sa gloire et ceux qui seront morts martyrs sous les coups de l'Antéchrist reviendront à la vie en même temps que tous les croyants de l'Ancien Testament. Voilà en ce qui concerne la première résurrection pour la vie. La deuxième résurrection est pour la mort, pour être condamné uniquement. Celle-ci aura lieu lors du jugement dernier, à la fin du millénium, le règne de 1000 ans de Jésus sur la terre. Ceux-là seront jugés en fonction du mal qu'ils auront fait durant leur vie terrestre, car il y a des degrés de châtiment. Ils se tiendront devant un Dieu saint et plaideront seuls leur cause. ils pourront toujours essayer les excuses classiques des tribunaux humains, comme le vice de forme, une enfance malheureuse et tout le reste. Mais les Écritures nous avertissent qu'aucun d'entre eux n'échappera au châtiment éternel, car seuls ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau iront dans la félicité éternelle. Dans le livre de vie sont écrits les noms des vrais croyants, ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus sur la croix pour effacer leurs fautes. Je continue le texte. « Pour moi, je ne peux rien faire de mon propre chef. Je juge seulement comme le Père me l'indique, et mon verdict est juste, car je ne cherche pas à réaliser mes propres désirs, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Verset 30. Ce passage sert de transition et de conclusion au discours de Jésus sur son union avec le Père. Cette partie se termine de la même façon qu'elle a commencé, c'est-à-dire avec l'affirmation selon laquelle le Fils ne peut rien faire de lui-même en dehors du Père. Tout ce qu'il accomplit, comme le jugement qu'il rend, l'est dans le seul but d'accomplir la volonté de Dieu. Il est le parfait porte-parole de l'Éternel. Cette unité entre le Père et le Fils démontre bien qu'ils ont la même essence, la même nature. Cette soumission à Dieu de la part de Jésus est un exemple à suivre pour ceux qui se disent chrétiens. L'homme, à l'état brut, est incapable de plaire à Dieu. Il est naturellement en rébellion contre son Créateur, même avec ses actes religieux et ses soi-disant bonnes actions. C'est pour cette raison que Jésus a insisté, disant à Nicodème, « Il faut que vous naissiez de nouveau !» Je continue le texte. « Bien sûr, si j'étais seul à témoigner en ma faveur, mon témoignage ne serait pas valable, mais j'ai un autre témoin et je sais que son témoignage est vrai. » Versets 31 à 32. À son propre témoignage, Jésus va en ajouter cinq autres. Tout d'abord, celui de Jean-Baptiste, puis celui de ses œuvres, puis du Père, puis des Écritures et de Moïse. Si le Christ rendait témoignage de lui-même, il ne serait pas accepté car il serait perçu comme une preuve d'arrogance et d'exaltation de soi. Pour qu'une chose soit reconnue comme véridique en Israël, il fallait qu'au moins deux personnes s'en portent garantes. Je continue le texte. Vous avez envoyé une commission d'enquête auprès de Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, je n'ai pas besoin d'un homme pour témoigner en ma faveur, mais je dis cela pour que vous soyez sauvés. Versets 33-34. En tant que Fils de Dieu, Jésus n'a besoin de personne pour le défendre. Néanmoins, le témoignage de Jean-Baptiste en sa faveur ayant été selon la vérité, il fut bénéfique aux Juifs. Étant le précurseur du Christ, il indiqua à tous ceux qui venaient à lui qui était le Logos, la parole et l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste était en quelque sorte la lampe qui reflétait la lumière venant du Messie. Je continue. Oui, Jean-Baptiste était vraiment comme un flambeau que l'on allume pour qu'il répande sa clarté, mais vous avez simplement voulu pour un moment vous réjouir à sa lumière. Quant à moi, j'ai en ma faveur un témoignage qui a plus de poids que celui de Jean, c'est celui des œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Oui, ces œuvres que j'accomplis attestent clairement que le Père m'a envoyé. Versets 35 à 36. Bien que Jean-Baptiste fût un formidable flambeau de Dieu, il ne fit aucun acte extraordinaire. Pendant un temps, les chefs des Juifs l'ont écouté. Cependant, ils n'ont reçu son message que superficiellement et sans percevoir la véritable source de la lumière. Pourtant, les prodiges que Jésus accomplit sont des signes et la preuve de sa divinité. Durant les 3 années de son ministère, il a probablement guéri des milliers de personnes. La vie créatrice de Dieu émanait de son être. Il était le Tout-Puissant fait homme. En outre, ces miracles avaient été prédits par les prophètes de l'Ancien Testament. Je continue. De plus, le Père lui-même qui m'a envoyé a témoigné en ma faveur. Mais vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Verset 37. Lors du baptême de Jésus et de la transfiguration, Dieu a témoigné en faveur de son Fils de manière à la fois audible et visible. De plus, les miracles extraordinaires qu'il accomplit régulièrement sont la preuve que le Père est avec lui. Les adversaires de Jésus sont dans les ténèbres les plus complètes en ce qui concerne la nature de Dieu. Ils n'ont aucune compréhension de sa personne ni de communication avec lui. Les religieux ne connaissaient pas Dieu, mais qu'en est-il de nous, de vous et de moi? Et sur ces paroles, je finis pour aujourd'hui.